Bienvenue dans ce nouveau petit cours d'histoire mondiale. Aujourd'hui, nous poursuivons l'histoire de l'évolution humaine en nous intéressant à l'ère des chasseurs-cueilleurs et au processus de néolithisation. Et pour ce cours-ci, nous allons nous concentrer sur le Proche-Orient et plus particulièrement la Mésopotamie et l'Égypte. Remontons tout d'abord à 15 000, 20 000 ans à l'arrière. Homo sapiens se déplace partout sur la planète et il est maintenant dans les Amériques, comme nous l'avons vu dans le cours précédent. Les gens commencent à établir des lieux de vie en fonction des saisons de chasse et comme ils ne sont pas constamment en déplacement, ben ils occupent davantage leur milieu de vie comme les grottes. Et c'est ce qui explique entre autres l'art pariétal qu'on retrouve dans bien des régions du monde. Pensez toujours aux grottes Chauvet, Lascaux, etc. Homo sapiens commence aussi à fabriquer des objets. Et là, en l'absence d'écriture, ces objets restent toujours matière à interprétation. Alors, tout dépendant de ce que vous lisez et où vous lisez, vous pouvez voir beaucoup, beaucoup d'hypothèses en lien avec ces objets. On a des figures humaines sculptées dans différents matériaux. On a surtout beaucoup de statuettes féminines, qu'on appelle souvent des Vénus, et qui sont parmi les œuvres d'art qui suscitent peut-être le plus de réflexion sur la naissance de la pensée spirituelle chez Néandertal, et là, cette fois-ci, surtout Sapiens. Parce qu'on parle d'un début de divinisation et de lien avec le sacré pour cette ère qu'on appelle celle des chasseurs-cueilleurs, avant qu'ils ne se sédentarisent complètement. D'ailleurs, on reparlera de Stonehenge dans le prochain cours, qui entre aussi dans cette espèce de complexification de la relation entre les hommes et cet univers qui les entoure. Alors ici, on parle de ces fameuses idoles, on peut les appeler comme ça aussi, ou de ces déesses que vous pouvez voir, vous pourrez voir, regarder sur Internet, mais c'est des espèces d'idoles et de Vénus au ventre très rond, les cuisses très épaisses avec une très grosse poitrine, qui entrent dans ce qu'on appelle le panthéon des divinités chthoniennes. Donc ça veut dire associé à la terre nourricière, fertile, celle qui nourrit les hommes, mais qui leur permet aussi de survivre et de se reproduire. Et comme la naissance, bien, c'est une capacité féminine, surtout à leur époque, il semble donc logique que ces figurines, qui sont possiblement votives, votives, ça veut dire qu'ils servent au culte, eh bien, c'est tout à fait logique que ça représente des femmes dans ce cas-ci. Et ça nous amène à un autre dossier parallèle, qui est l'importance des femmes dans les sociétés des chasseurs-cueilleurs avant la sédentarisation. Parce que vous n'êtes peut-être pas sans le savoir si vous suivez surtout mes réseaux sociaux que depuis quelques années déjà, les chercheurs tentent de briser beaucoup de préjugés sur la division du travail entre les sexes et cherchent de plus en plus à ne pas teinter leur vision des sociétés préhistoriques et néolithiques des conceptions, on va dire, sexistes des rôles des femmes et des hommes. Alors, comment trouver la place des femmes au sein des communautés préhistoriques avant qu'on soit complètement sédentarisé? Eh bien là, on va étudier des artefacts, on va analyser des squelettes, on va analyser beaucoup de résidus alimentaires en laboratoire, on va étudier les plus anciennes œuvres d'art, tout y passe présentement pour essayer de présenter un nouveau portrait des femmes avant l'arrivée de l'écriture. C'est sûr que dans une société où l'espérance de vie est beaucoup plus courte que la nôtre, on est vraiment dans un mode de vie de survie. Donc, présentement, pour l'ère des chasseurs-cueilleurs, c'est vraiment ça. Et on laisse penser, en fait, l'idée, en fait, d'être en mode survie, ça laisse penser que tous les talents dans une société devaient être utilisés et que le travail, ben, n'est pas vraiment divisé sur le sexe, mais probablement sur le talent aussi. Ça n'empêche pas le fait que les femmes sont celles qui donnent souvent naissance, elles sont souvent enceintes, elles doivent allaiter les premiers mois, mais on est beaucoup parti pendant longtemps, là, des vieilles idéologies que les femmes étaient plus faibles physiquement, et donc logiquement, même si elles, en plus d'être enceintes, elles vont rester généralement dans les grottes, elles vont plutôt cuisiner la nourriture, s'occuper des enfants et peut-être poser les pièges, peut-être pêcher. On était capable d'entrevoir cette idée-là, s'occuper de la cueillette, mais certainement pas des femmes qui allaient chasser. Alors, on a vraiment pendant longtemps exclu cette idée qu'une femme pouvait chasser le gros gibier. Bon, pêcher peut-être, mais bon, tuer un chevreuil, probablement pas. Et c'est du côté de l'Amérique du Sud et surtout des Andes, en fait, qu'il y a une petite révolution de ce côté-là. En fait, on a découvert une tombe dans les Andes péruviennes en 2018. Le squelette avait été enterré à peu près il y a 9000 ans et il était surtout inhumé avec son matériel de chasse au gros gibier. Donc, on parle pas ici de petits écureuils, là. Donc, des pointes de flèches en pierre, une espèce de lance que les sociétés préhispaniques vont appeler l'atlatl, des pierres lourdes qui servaient à briser les os, retirer les peaux. On avait des éclats pour racler aussi les peaux des animaux. Et là, ben, grâce maintenant à tout ce qu'on peut étudier en laboratoire, on a réussi à prélever l'émail des dents. Et maintenant, à partir de cet émail des dents-là, on est capable d'aller chercher de l'ADN. Et cette analyse a révélé une femme! femme! Alors ça, c'est quand même intéressant. On lui a donné un nom. On l'a appelée Willamaya Patja. Et elle était vraiment bien placée avec ses armes. Mais là, quand les archéologues et les anthropologues ont commencé à bien étudier cette tombe-là, une fois qu'ils ont compris que c'était une femme, bien là, on avait vraiment une preuve, en fait, que la division des tâches était beaucoup plus axée sur les capacités que sur le sexe. Alors là, il fallait démanteler le vieil adage et c'est pas une seule tombe qui allait le permettre. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'on a commencé une vaste étude d'autres tombes pour arriver à émettre une hypothèse assez fiable qu'il y a plusieurs femmes qui chassaient le gros gibier. Alors, on en est venu à sélectionner 429 tombes en Amérique du Sud et en Amérique centrale qui dataient toutes de l'époque qui nous intéresse aujourd'hui, soit d'il y a 14 000 ans à 8 000 ans. Il y en avait 27 dont le sexe pouvait être identifié, donc ça, c'est quand même intéressant, et qui avaient été inhumées avec du matériel de chasse. Donc, ce sont la sélection s'est faite sur les tombeaux avec matériel de chasse, ça, c'est bien important, ce qui nous a donné 11 femmes et 16 hommes. Et ben, si vous faites un petit peu le calcul, ben, on réalise que le pourcentage de femmes qui chassent le gros gibier est quand même très élevé, beaucoup plus qu'on aurait pu jamais imaginer. Et ça vient nous démontrer que, un peu comme nos sociétés autochtones en Amérique du Nord, eh bien voilà, les tâches dans des sociétés qui sont plus en mode survie, ben, c'est basé sur les capacités, sur la collaboration et l'esprit de communauté, beaucoup plus que toi homme, moi femme, et divisé comme ça selon supposément le sexe, qui peut faire quoi. Alors ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et ça entre vraiment dans c'est même pas une révision en fait de la préhistoire, c'est en fait une volonté de mieux la comprendre et de ne pas se baser sur d'anciens préjugés. Alors ça, c'est à suivre parce que vous allez voir vraiment beaucoup d'études en lien avec la femme de la préhistoire qui vont paraître dans les prochaines années, ça c'est certain. Mais donc, en ce qui a trait au début des réflexions spirituelles dont on parlait précédemment et de la volonté d'établir des lieux pour communiquer avec le monde divin, qui semble nous gouverner, hein, parce que là, il faut imaginer que les gens ont des campements de chasse, ils y reviennent régulièrement, et ils sont soumis beaucoup aux aléas de la nature, les orages, les tempêtes, les tremblements de terre, les sécheresses, et ils vont, à un moment donné, vouloir communiquer avec cet univers-là qui les régit, et établir ce qu'on pourrait appeler des sites sacrés, probablement là où il y a eu une manifestation imposante du divin, peut-être la foudre qui tombe sur un arbre qui s'embrase, un tremblement de terre et une pierre se fend quelque part. On suppose en fait que c'est probablement là qu'on va avoir les premiers sanctuaires, donc les lieux où on a quelque chose qui est sacré, où il y a eu une sorte de manifestation divine. Et là, dans cette époque des chasseurs-cueilleurs, avant la sédentarisation, bien, c'est sûr qu'il y a un site archéologique là, qui intéresse de plus en plus parce que les découvertes archéologiques abondent. On est même rendu avec l'idée d'un calendrier solaire. Je n'entre pas trop dans cette théorie-là parce qu'elle est très récente et assez contestée, mais vous avez compris que je vous parle du site archéologique de Göbekli Tepe. On est du côté de la Turquie. Il est super intéressant, mais c'est encore très mal compris. Parce qu'en turc, ça veut dire la montagne du nombril. Le site en tant que tel, archéologique, est situé au sud-est de la Turquie. Peut-être à peu près là, à une dizaine de kilomètres de la ville d'Urfa. On est sur une colline d'à peu près 15 mètres de hauteur qui porte le nom de Tel, généralement, là, parce que bon, c'est en langue arabe à l'origine. Mais c'est comme une colline artificielle. Ça veut dire qu'on a ajouter, en fait, de la matière sédimentaire là, pour l'augmenter. Et cette hauteur, donc, c'est vraiment en raison des constructions, des effondrements, mais aussi de la volonté de créer des plateaux qui expliquent qu'elle mesure à peu près 15 mètres de hauteur. Et c'est depuis, en fait, le 1994 là, qu'on a commencé à vraiment fouiller cet endroit-là, surtout l'été. Et on est rendu en 2024, il y a à peu près 5-6% seulement de ce site-là qui a vraiment été bien fouillé, excavé. Donc, à chaque année, il ne faut pas être surpris qu'il y ait toujours des nouvelles études qui mettent en lumière là, des découvertes sur le site. Et ce qu'on a là, on a des mégalithes qui ont toujours fasciné le public parce qu'on a des constructions quand même. On a 43 mégalithes là, qui ont été dégagés jusqu'à présent, qui sont quand même très hauts, ils sont nombreux. Donc, et quand on essaie de dater tout ça, on joue à peu près sur il y a 11 000 ans. Donc, on est vraiment vers la fin là, de cette ère des chasseurs-cueilleurs qui vont lentement mais sûrement commencer à se sédentariser. Donc, à s'établir à un endroit et ne plus vraiment le quitter. On a une quarantaine de mégalithes de dégagés, mais les analyses radar nous en montrent beaucoup plus, probablement même plus de 200. On a des mégalithes qui sont en forme de piliers, un peu en forme de T, un peu comme le site de Stonehenge, mais qui est beaucoup plus récent, en fait. Certains vont mesurer près de 5 mètres de hauteur, et les poids, ben écoutez, c'est du 7 à 10 tonnes. On est à peu près là, 6000 ans avant Stonehenge, ou la grande pyramide, la pyramide de Khéops. C'est quand même dans une roche qui se travaille. Par contre, c'est de la roche calcaire qui vient d'une carrière qui est juste en bas de la colline. Donc, le déplacement, par contre, des pierres ici ne pose pas vraiment de problème, c'est tout près, mais arranger ça en cercle sur une colline, arriver à monter ça pour faire des formes de T, on a plusieurs mégalithes là, qui sont orientés un peu vers l'intérieur, d'autres qui sont comme, on ne sait pas trop quelle position ils ont là-dedans, on a des représentations d'animaux sauvages, c'est pas trop surprenant parce qu'à l'époque, en fait, ce qu'on appelle l'Anatolie, ben, c'était une vaste savane verdoyante, et là, ben, lentement mais sûrement, vous avez eu le processus d'assèchement, de désertification, là, qui fait que le climat d'aujourd'hui est très différent de ce que c'était il y a 11 000 ans. Et donc, c'est pour ça qu'on peut voir des représentations de ce qui semble être des renards, des lions, des scorpions, des vautours, même des araignées. On a des formes qui sont beaucoup plus abstraites, qui laissent peut-être penser à une forme de divinisation ou d'être surnaturel. On a aussi l'impression d'avoir une femme nue à un endroit là, qui est représentée assise et de face, qui pourrait rappeler les déesses, les Vénus, dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà, on a réussi là à faire des datations, des traces de charbon, de feu, d'ossements d'animaux, et on arrive vraiment à la conclusion qu'on a un site là, qui a, pour le cœur du site en tout cas, été érigé il y a 11 000 ans. Donc, on est avant le développement de l'agriculture, on est avant le développement des premiers villages. Et c'est sûr que depuis toutes ces découvertes, et encore aujourd'hui, on a toujours cette idée qu'on aurait peut-être le premier temple de l'histoire. Et c'est une hypothèse qui est avancée depuis très longtemps, mais qui ne fait pas nécessairement consensus. C'est sûr qu'encore une fois, on n'a pas d'écriture, donc d'imputer aux gens une volonté, il faut faire attention à ça. Donc, c'est toujours à suivre, en fait, ce site-là, mais c'est quand même très, très intéressant. Mais on entre là, maintenant dans l'ère néolithique pour cette région du monde qu'on appelle le croissant fertile. Et c'est là où on arrive dans une forme de changement de datation dans les livres, les articles, qui peut parfois porter à confusion. Et là, je vais essayer de vous expliquer très simplement pourquoi c'est beaucoup plus complexe que ça, mais je vous rappelle que ce petit cours d'histoire mondiale, le but, c'est d'être pour le plus grand nombre possible, de vous fournir des bases pour que vous puissiez continuer à lire par vous-même par la suite. Alors, quand on parle du néolithique, ce n'est pas une époque. Ça, c'est super important, comme quand on parle de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, avec des dates qui sont assez précises. Quand on parle du néolithique, c'est une étape évolutive dans l'histoire de l'humanité et ce ne sont pas toutes les sociétés du monde qui l'ont atteinte. Parce qu'une société atteint le néolithique lorsqu'elle délaisse graduellement le nomadisme et donc essentiellement la chasse et la cueillette comme mode de vie, et qu'elle en vient à se sédentariser, donc à ne plus bouger de campement en campement, mais de rester toujours au même endroit, dans le but de cultiver, de pratiquer l'agriculture, donc de produire sa nourriture plutôt que de la courir. Alors ça, c'est la définition de base de ce qu'on appelle le néolithique. Et c'est pour ça que des fois, vous allez voir des dates du néolithique, si vous êtes en Europe, qui sont beaucoup plus récentes que si vous regardez le néolithique pour l'Égypte ou la Mésopotamie qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une époque bien précise, mais un stade d'évolution. Mais quand une société atteint le néolithique, c'est sûr que c'est plus intéressant et plus facile de les étudier parce que là, les gens restent au même endroit, commencent à construire des villages et éventuellement des villes, donc laissent des traces archéologiques, et là, c'est beaucoup plus facile de les dater. Et c'est comme ça que lentement, mais sûrement, on a fait entrer la Mésopotamie, l'Égypte, ce croissant fertile, en fait, qui est le Proche-Orient, on va voir vraiment les premières civilisations de l'humanité, c'est le berceau des civilisations, on l'a fait entrer dans la datation, la fameuse datation avant Jésus-Christ, avant notre ère, où aujourd'hui on utilise davantage avant l'ère commune. Pourquoi? Parce que, bon, quand on arrive au Moyen-Âge, à un moment donné, on va établir le fameux an zéro, la date à peu près à laquelle Jésus-Christ serait né, et il y a eu ce qui est venu avant et ce qui est venu après. Mais bon, il faut quand même comprendre, un, On est au Moyen-Âge, les datations ne sont pas si justes que ça. On a quand même pas mal de régions dans le monde qui ne sont pas chrétiennes. Alors, c'est un peu la raison pour laquelle maintenant, c'est beaucoup plus inclusif d'utiliser les appellations avant l'ère commune ou avant notre ère qu'avant Jésus-Christ. Ce sont donc les termes que je vais utiliser dans ce balado. C'est aussi le choix de termes que j'ai utilisé dans le manuel que je viens de publier aux éditions Fides, manuel d'histoire pour le collégial Le Monde depuis le 15e siècle, une histoire des sociétés en interaction, que j'ai coécrit là, avec ma collègue Karine Prémont, mais aussi avec Mathieu Perron, Audrey Desrochers, qui est donc un gros livre d'histoire que vous pouvez vous procurer, qui peut un peu vous aider peut-être là, à suivre ce cours-ci, même si c'est pas exactement la même chose. Mais on a donc privilégié là, l'appellation de l'ère commune, avant l'ère commune et de l'ère commune, pour s'assurer que toutes les régions du monde, justement, se sentent incluses et même si elles n'ont jamais eu de contact, n'ont jamais pratiqué une religion qui s'apparente de près ou de loin à ce qu'est le christianisme. Donc, c'est un peu la raison. Et de plus en plus, vous allez donc voir l'acronyme là, AEC avant l'ère commune plutôt que AV.J.C. avant Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas se sentir heurté d'ailleurs par ça. Le but, c'est que quand on fait de l'histoire mondiale, il faut essayer d'avoir quelque chose qui est le plus neutre possible, même au niveau des datations. Donc, on va maintenant entrer dans avant l'ère commune. Alors, il y a de 11 000 à 3 000 avant l'ère commune. Donc là, ça veut dire que si on se met à l'an zéro, ça veut dire que ce serait il y a 13 000 ans, mettons. Alors, de 11 000 à 3 000 avant notre ère, on parle donc du processus de sédentarisation et graduellement de la formation des premiers gros villages dans cette région du croissant fertile. Que vous pouvez voir, il y a plein de cartes faciles pour vraiment voir ce que c'est, mais essentiellement, c'est le Proche-Orient là, qui est la première région du monde à atteindre le stade néolithique. Inquiétez-vous pas, la Chine et l'Inde suivent de très très près, on en parlera dans le prochain cours, et le reste de la Méditerranée ben, va suivre aussi, mais à différentes étapes un peu plus tardives. Et on est capable donc de voir les débuts de l'agriculture. L'agriculture, ben là, c'est l'humain hein, qui intervient directement dans le processus naturel de la croissance des plantes. Il fait des choix selon ses besoins, mais aussi selon ce qui fonctionne le mieux, selon son climat. On est quand même dans des zones avec qui sont un climat assez sec. Et quand on s'en va du côté de ce qui est aujourd'hui l'Irak, ben là, on a quand même des fleuves importants que sont le Tigre et l'Euphrate. D'où pourquoi on va parler de Mésopotamie, Mésopotamos, donc entre deux fleuves. Ce qui va favoriser en fait l'agriculture parce que l'accès à l'eau est très facile, mais le climat étant chaud, fait en sorte qu'on n'a pas trop besoin de s'habiller. Pour les habitations, c'est quand même assez facile. Et pour la culture, bon, on peut contrôler aussi l'arrosage un petit peu. Alors ça devient intéressant. Mais donc l'homme, lorsqu'il se sédentarise comme ça parce qu'il commence à produire sa nourriture, ben, il défriche, il délimite des nouveaux espaces pour les troupeaux aussi, parce que lentement, mais sûrement, on va pratiquer l'élevage. Et pour la culture des plantes, donc l'homme commence déjà à modeler, à modifier son environnement. Donc, dans les études, on va dire plus scientifiques, on va souvent parler d'anthropisation du milieu. Ça veut dire qu'on aménage l'espace selon les besoins et la volonté de l'homme. Mais il faut dire qu'il y a déjà des céréales sauvages, entre autres en Anatolie et ce qui est aujourd'hui la Turquie. D'ailleurs, il y a plusieurs nouvelles études là, qui essaie de démontrer, et c'est probablement assez juste, on s'en rend compte, que c'est probablement du côté de la Turquie là, qu'on a les plus anciennes traces de culture du blé. C'est pour l'instant, hein, parce que ça peut toujours changer. Faut dire qu'on trouve là, des fois des débuts de graines, on trouve des résidus dans des pots, des choses comme ça. C'est comme ça qu'on arrive à comprendre un petit peu l'évolution là, de la culture céréalière. Donc, on sait que le blé, c'est la plus ancienne céréale cultivée, suivie par l'orge, le millet, et le riz est un petit peu plus tardif là, du côté de la Chine et de l'Inde par la suite. Ça prend aussi du matériel pour broyer les grains, donc la meule pour réussir à broyer tout ça. Alors là, on a vraiment des facteurs de sédentarisation parce qu'on ne peut pas toujours se déplacer avec notre matériel. Alors, on va commencer à avoir des campements qui vont devenir des huttes et là, à un moment donné, les gens vont vouloir collaborer ensemble pour cultiver. Donc, il faut se préparer le sol, il faut semer, il faut quand même élever des enfants à travers tout ça. Moudre le grain à la main, c'est compliqué. Essayer de faire la nourriture. Et vous allez avoir dans cette évolution-là aussi ben, le premier métier. Bon, un métier, par définition, c'est l'idée que quelqu'un a un talent, produit quelque chose et les gens bon, vont lui acheter. C'est sûr qu'on n'est pas dans des sociétés qui achètent, mais on est dans des sociétés plus de troc. Mais c'est sûr que là, à un moment donné, vous avez des grains, des premières céréales. Il faut les stocker. Et là, ben, c'est sûr que laisser juste un tas de grains dans une hutte, ben, les souris vont là-dedans, ce qui va nous amener lentement, mais sûrement, à la domestication du chat, miaou, miaou, qui va être bien pratique pour chasser les petites souris et tous les petits rongeurs qui peuvent s'attaquer aux grains. Mais c'est sûr que c'est beaucoup plus efficace de les ranger, en fait, dans des jarres, dans des pots. Donc, le potier, qui est probablement là, le plus vieux métier du monde, non, ce n'est pas la prostitution. Ici, ce n'est pas l'idée que des femmes vont vendre leurs services. Là, on n'est vraiment pas dans ce genre de société-là, mais vraiment potier, on peut vraiment dire que c'est le premier métier du monde où on va échanger un service, fabriquer des pots et les gens vont leur fournir des grains en échange. Donc, ils n'auront pas à cultiver la terre, mais ils vont fabriquer des pots en bonne quantité pour que les gens puissent conserver les céréales, puissent conserver de l'eau aussi. On en parlera dans un prochain balado, mais lentement, mais sûrement, il y a des petits grains des fois qui vont rester dans le fond d'un pot avec un peu d'eau, ça va fermenter et bonjour la bière! Mais on n'est pas tout à fait là encore. Donc là, on est encore là, il y a entre 10 000 et 7 500 avant notre ère. C'est là où on va commencer à avoir, en tout cas pour l'instant toujours, parce qu'il peut y avoir des découvertes archéologiques qui viennent jouer un peu sur ces datations-là, mais les premiers villages de l'humanité, ça veut dire qu'on a des huttes qui sont séparées des fois là, par une espèce de petite rue. Il y en a plusieurs, il y a une agglomération, les gens vivent en communauté. Le plus ancien s'appelle Jéricho. Vous pourrez aller voir encore une fois le Jéricho, mais la Jéricho archéologique et non pas la Jéricho biblique, où on voit en fait là, ces espèces de maisons rondes creusées dans le sol. Il n'y a pas vraiment on ne comprend pas encore comment monter des murs. Fait qu'on creuse en fait une espèce de hutte avec de la boue. On va monter des murs un peu ronds, un peu comme quand on se fait un fort l'hiver avec de la neige et on va passer par, on va littéralement passer avec une petite échelle par le haut en fait pour rentrer dans la maison. Donc, parce que si on creuse un trou pour faire une porte, ben, l'ensemble peut s'effondrer. Donc c'est encore très très rudimentaire. Et là, on est à peu près là, vers 10 000 avant notre ère. Et là, wow! 10 000, 9 000, 8 000 avant notre ère. Là, on va arriver vers un village où on va lentement mais sûrement commencer à comprendre comment faire des maisons carrées. Donc là, ici, c'est sûr qu'il y a du calcul. Il y a une compréhension de comment appuyer les murs les uns sur les autres. Et lentement mais sûrement, on va commencer à comprendre comment on peut faire une porte où on entre en marchant dans la maison sans que l'ensemble ne s'effondre. Et ça, ce village-là, c'est un des grands sites archéologiques les plus importants de l'histoire de la néolithisation. Ça s'appelle Çatalhöyük et c'est du côté de la Turquie. Vous avez en fait le Çatalhöyük Project, si ça vous intéresse. Ils ont un site web qui vous montre en fait toutes les phases en fait de développement de ce site-là, de ses débuts jusqu'à ce qu'on pourrait appeler vraiment l'Antiquité, et comment on va passer d'un petit village à ces fameuses maisons carrées, mais au départ collées les unes sur les autres. Comment on va en venir à mieux planifier l'espace? Donc, c'est pour ça qu'on va commencer à parler d'urbanisme ou de quelque chose qui est proto-urbain. Quand on commence à planifier l'espace avant de construire. Donc là, on va se dire, ouais, mais si on met de l'espace entre les maisons, ben, les gens vont pouvoir circuler. Ça va être un petit peu plus intelligent, en fait, comme aménagement de l'espace. Çatalhöyük, qu'on voit cette évolution-là. On commence à voir de la trace de peinture murale. À un moment donné, plus on s'en va vers 5 000, 6 000 avant notre ère, on va même avoir une enceinte une fois. Donc, ça veut dire qu'on va vouloir un peu délimiter ce qu'est ce village-là, peut-être le protéger aussi. Donc, c'est quand même gros aussi pour l'époque. Et c'est pour ça qu'on va commencer à parler d'un village qui va en venir à être une, on va dire, pseudo-ville, parce que c'est quand même pas là, la définition d'une ville d'aujourd'hui ou même de ce qu'on va aborder là, quand on va parler des civilisations antiques. Mais on est en train quand même de mieux planifier l'espace avant de construire et juste pour ça, on commence à entrer dans l'urbanisme. Et donc, il va y avoir de plus en plus de gens, on le voit au fil du temps sur ce site-là, plus de besoins. Et là, ça va amener une organisation un petit peu plus clair de la société. Alors, on se doute qu'on va avoir les premières autorités politiques parce que ça prend quelqu'un pour gérer tous ces gens-là. Il va y avoir probablement des échanges internes. Pensez juste à l'idée de demander à un potier des pots et de lui échanger de la nourriture pour en obtenir. Donc, on s'en va vers ça. Et c'est sûr que là, plus on comprend comment cultiver, plus on développe des outils. Fait que là, on va avoir des lames de houx. C'est fait en ossement. On n'est pas du tout dans les métaux encore. Des marteaux, des pilons et mortiers. Ça, c'est super important. Et des récipients qui sont en bois et éventuellement, tout ce qui est en terre cuite, essentiellement. Alors, les sociétés se complexifient, les villages grossissent. Et quand ils sont plus il y a de gens, plus il y a de besoins. Et à un moment donné, ben, il y a aussi la possibilité de rencontrer d'autres populations qui ne sont pas si loin de nous. Donc, ça veut dire que ça peut se voir à pied ou sur une petite pirogue, premier mode de déplacement qui n'est pas à pied, creuser un tronc d'arbre pour flotter sur l'eau. On s'entend qu'on ne fait pas des très, très longues distances, du moins, on le suspecte, mais on a quand même, surtout si on pense au tigre et à l'euphrate, la possibilité de commencer à le faire. Donc, on entre en contact avec d'autres populations qui sont établies pas trop loin de nous et ça va amener des premiers échanges commerciaux. Alors là, vraiment, on entre là, dans le grand néolithique, ça veut dire on est établi, mais on commence à avoir des contacts avec les autres et on commence à développer des différents objets en fonction de nouveaux besoins parce que maintenant, on est sédentarisé. Donc ça, j'espère que c'est assez clair pour vous. Et ça fait en sorte que lentement, mais sûrement, on va avoir aussi le développement des premières techniques d'irrigation parce qu'on va comprendre que les fleuves comme le Tigre et l'Euphrate, en fait, vont entrer en crue un peu comme le Nil en Égypte et on va vouloir garder des fois un peu de cette eau qui contient souvent des détritus végétaux, une sorte de compost littéralement, pour continuer à arroser le sol plus tard. Donc, on va développer des techniques d'irrigation, mais aussi des bassins de réservation de l'eau, lentement mais sûrement. Alors, tout ça va mettre la table pour qu'une première civilisation voit le jour en Mésopotamie. Et ça, on va voir ça dans les prochains cours. C'est sûr que la semaine prochaine, on est encore dans le néolithique, mais vous allez voir ensuite, quand on va entrer du côté de l'histoire de l'Antiquité, des premières civilisations antiques, on retourne et on commence avec la Mésopotamie qui donc est incontournable ici. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que les gens, au départ, n'ont pas trop de contact entre eux, mais il y a plusieurs foyers, en fait, de néolithisation entre le Tigre et l'Euphrate, et c'est là que se développe ce qu'on appelle des cultures. Une culture, ce n'est pas une civilisation, ça veut dire qu'on est dans une petite région, on peut être en Mésopotamie, et dans le nord du Tigre, dans le sud de l'Euphrate, au centre, il y a des gens qui ont vécu là pendant plusieurs générations et qui ont développé leur propre culture. Donc souvent, on va les distinguer par la façon de fabriquer leur peau, de construire leur maison. Chacun un peu sa signature. Et donc, vous avez du côté de la Mésopotamie ce qu'on appelle les cultures Asuna, Samoura, la culture Alafienne aussi, là, pour le site de Tel Alaf, et la culture d'Obeid, là, qui est peut-être une des plus importantes pour aller vers une première civilisation du côté de la Mésopotamie, parce que Obeid va commencer à produire beaucoup de céramique et probablement la culture qui va développer le tour rapide. Et ça, c'est important parce que quand on abordera la première civilisation mésopotamienne, ben, on parlera d'une invention majeure dans l'histoire de l'humanité qui est la roue. Mais on n'est pas rendu encore. Si on s'en va en Égypte, ben, l'Égypte aussi va vivre cette transition néolithique-là, mais un peu différemment, parce qu'on n'est quand même pas exactement au même endroit. D'ailleurs, en Égypte, les plus anciennes traces humaines, du moins d'outils, là, c'est Homo erectus qu'on est capable d'identifier pour l'instant. Et il faut quand même comprendre que l'Égypte, quand on est à l'époque de la préhistoire, mettons il y a 90 000 ans, c'était encore très, très vert. Le Sahara n'était pas du tout le désert d'aujourd'hui. Il y avait encore beaucoup de savanes, de vallées, d'endroits très, très verts en réalité. Et même si la désertification commence à s'amorcer il y a à peu près 50 000 ans, c'est quand même très, très vivable un peu partout, en fait, de ce qui est le Soudan d'aujourd'hui là, jusqu'à la mer Méditerranée. Et donc, lentement mais sûrement, la désertification du Sahara va faire en sorte qu'on va avoir des oasis parce que là, il y a des zones qui vont commencer à être du désert, mais il va rester des lieux de verdure. Et on va avoir le Nil qui, lui, assure, en fait, le côté verdure doyen et la possibilité de culture, donc la fameuse vallée du Nil en Égypte là, qui va être celle où on va avoir le plus de population, plus le Sahara va se désertifier. Donc, on va avoir au départ une combinaison de nourriture de ce qu'on appelle de la savane, du bœuf, des antilopes, des gazelles, produits de la pêche, et à un moment donné, on va commencer à passer au néolithique. Il y a, en fait, vers 7000 avant notre ère. Donc, l'Égypte va se néolithiser un petit peu après la Mésopotamie. C'est pas pour rien qu'on parle de la Mésopotamie comme étant le berceau des premières civilisations. L'Égypte est vraiment pas loin derrière, mais juste un petit peu. Donc, c'est plus vers 5000-6000 avant notre ère qu'on peut pas dire que l'Égypte va passer au néolithique, à la sédentarisation. Là, on va commencer à voir l'agriculture, surtout dans la vallée du Nil. On va commencer à avoir des traces d'habitat, de fermes même. On a même trouvé des espèces de silos pour conserver le blé et l'orge, qui est quand même une céréale très importante du côté de l'Égypte. Les premiers pots aussi. Et exactement comme en Mésopotamie, bien, ça va faire en sorte que le Nil, c'est long. Là. C'est le deuxième fleuve le plus long au monde après l'Amazone. Puis on vraiment une très, très petite différence de distance, là, de longueur. Et tout le long de la vallée du Nil et des fois un petit peu en retrait parce qu'on n'est quand même pas encore complètement dans un désert du côté du Sahara, donc vers les oasis et tout ça, surtout dans la portion ouest du Nil. On va avoir différentes cultures exactement comme en Mésopotamie. Donc, vous allez avoir la culture fayoumique, qui est celle qui est la plus proche du Caire d'aujourd'hui. Vous allez avoir dans le sud ce qu'on appelle la culture tarifienne. Vous allez avoir aussi différentes petites cultures qu'on appelle au pluriel les cultures saharo-soudanaises. On est vraiment au sud proche de ce qu'est aujourd'hui Soudan, Éthiopie. Si on s'en va vers le désert de l'ouest d'aujourd'hui, le désert libique, on a la culture badarienne aussi. Donc, entre 6000 et 4000 avant notre ère, on a quand même beaucoup de cultures comme ça, sédentarisées, qui construisent les premiers villages de l'Égypte. Et là, graduellement, lentement mais sûrement, il y a une certaine unité culturelle qui va se créer. Il y a une culture, en fait, qui est peut-être un petit peu plus avancée, on va dire technologiquement et peut-être même spirituellement que les autres, et qui va en venir à dominer la vallée du Nil et qui va être un petit peu, je dirais, là, la culture, et même on pourrait parler d'un début de civilisation pré-dynastique, donc avant le début de l'Égypte pharaonique, mais elle en est un peu les racines. Et c'est ce qu'on appelle la culture Nagada, donc entre 4000 et 3200 avant notre ère. Et quand on tombera dans l'Égypte, après avoir fait les civilisations de l'Antiquité en Mésopotamie, eh bien, c'est avec cette culture-là là, qu'on va commencer notre périple. Et donc, comme toujours, je vous suggère toujours quelques lectures là, pour continuer sur le sujet en cours. Dans un premier temps, je vous suggère un vieux classique. Des fois, c'est le fun quand même de retourner lire des classiques. Un de ces grands classique s'appelle « Naissance des divinités, naissance de l'agriculture ». Ça a été écrit par Jacques Cauvin et c'est paru chez Flammarion à la fin des années 90. C'est encore très facile à trouver en format poche, entre autres. Très récemment, je vous suggère aussi le livre « Femmes de la préhistoire » de Claudine Cohen chez Bellin. Et pour le néolithique en Égypte, eh bien, je vous conseille le très chouette ouvrage de Béatrix Midan-Raines qui est paru chez Fayard « Aux origines de l'Égypte, du néolithique à l'émergence de l'État ». Alors voilà pour ce deuxième cours. Dans le prochain, ben là, on va s'intéresser à la néolithisation du côté de l'Europe, mais aussi du côté de la Chine et de l'Inde. Alors, on va aller voir ça autrement. Et oui, on parlera de Stonehenge. Alors, je vous dis à très bientôt!